Bonjour frères et sœurs. Est-ce que c'est possible de connaître Dieu, de connaître la volonté de Dieu, connaître son plan, connaître qu'est-ce qu'il attend des êtres humains sur la terre? Bon, nous qui sommes croyants, nous pouvons dire oui, c'est possible, mais cette connaissance-là du plan de Dieu, de la volonté de Dieu, de ce qu'il aime, de ses valeurs, c'est inaccessible pour beaucoup de gens sur la terre. Même des grands penseurs, des philosophes se creusent la tête pour comprendre qui est Dieu et quelle est sa volonté. Est-ce que c'est possible même de le savoir, qui il est? Est-ce que c'est possible pour un Dieu transcendant de se révéler? Et ils arrivent à toutes sortes de fausses compréhensions. Parce que la réponse à ces questions-là n'est pas accessible à tous les hommes. L'Évangile de Jean, qu'on étudie, arrive justement à un moment dans le ministère de Jésus où ce fait-là, que ce n'est pas accessible à tous les hommes, de connaître Dieu, est manifesté. C'est un passage dans chapitre 7, et c'est un moment charnière là, dans le ministère de Jésus. Dans l'Évangile de Jean, c'est un chapitre important où il y a une transition. Jésus passe de son ministère en Galilée et il s'en va à Jérusalem. Il est allé quelquefois à Jérusalem, mais là, il y va pour la dernière fois. C'est là qu'il va terminer son ministère, c'est là qu'il va donner sa vie. Et Jésus, dans ce cheminement-là, d'abord d'être en Galilée, de transitionner vers Jérusalem, ce qui est soulevé dans le passage qu'on va voir aujourd'hui, c'est que Jésus ne suit pas l'agenda souhaité par la population juive. Et ça crée beaucoup d'incompréhension. Les gens se demandent, qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il veut? Parce qu'il n'y a pas un agenda compatible avec ce qu'on s'attendait de lui. Et ce que les hommes en général s'attendent des maîtres spirituels. Donc, on étudie Jean, chapitre 7. On va étudier les versets 1 à 30. C'est pas une erreur dans votre bulletin, là, c'est que j'ai changé d'idée. Puis on va continuer la semaine prochaine à partir du verset 31. Mais on va commencer par lire les 9 premiers versets. Donc, Jean 7, versets 1 à 9. L'Évangile de Jean, chapitre 7, verset 1. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait point parcourir la Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, celle des Huttes, était proche. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples contemplent aussi les œuvres que tu fais. » Personne n'agit en secret s'il cherche à se mettre en évidence. Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Le moment n'est pas encore venu pour moi, mais pour vous, le moment est toujours opportun, ou toujours prêt. Le monde ne peut pas vous haïr, mais il a de la haine pour moi, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à la fête, parce que le moment... Montez-vous à la fête. Moi, je ne monte pas encore à cette fête parce que le moment pour moi n'est pas encore accompli ou arrivé. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Donc, Jésus resta en Galilée et le texte précise pourquoi. Parce que les Juifs voulaient le faire mourir. Donc, on entend par là, dans l'Évangile de Jean, ceux qui sont appelés les Juifs, c'est les chefs religieux juifs, dont leur centre de pouvoir était à Jérusalem. Donc, on parle des pharisiens, les scribes. C'est principalement les pharisiens qui voulaient la mort de Jésus. Ça ne veut pas dire que Jésus craignait pour sa vie puis il se cachait, mais ce n'était pas le temps qu'il meure maintenant. Donc, il suivait le plan de Dieu et l'heure de sa mort n'était pas encore arrivée. Au chapitre 5, on a vu dans son dernier passage au temple à Jérusalem, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que Jésus a fait, qui a fait surgir la colère des Juifs, c'est qu'il a guéri un homme paralytique le jour du sabbat. Donc ça, c'était interdit de faire. Les pharisiens ont jugé qu'il avait fait un travail, c'était interdit. Donc ils voulaient qu'il soit sévèrement puni, même peut-être mourir. En plus, Jésus, pour expliquer ce qu'il a fait, pour se justifier, il dit « Mon Père céleste, lui, travaille jusqu'à maintenant. Moi aussi, je travaille. » Là, ça ajoutait encore plus à l'offense, au blasphème, selon les Juifs, parce qu'il se faisait égal à Dieu en disant ça. Donc, il voulait vraiment sa mort. Mais Jésus le savait, qu'il l'attendait pour le faire mourir. À cause de cela, on lit dans Jean 5, 18, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Mais la fête des Huttes arrivait, puis c'était une fête importante parmi les trois fêtes que les Juifs respectaient. Même l'historien Joseph dit que c'était probablement celle qui attirait le plus de monde à Jérusalem. Donc les foules s'y rendaient. C'est la fête appelée aussi des tabernacles, des tentes, des cabanes. Donc la population se rendait à Jérusalem en grand nombre et ils dormaient pendant une semaine au complet dans des tentes, faisaient du camping. Mais c'était pour rappeler l'événement que leurs ancêtres avaient connu lorsqu'ils sont sortis d'Égypte et qu'ils dormaient dans des tentes dans le désert pour guider par Dieu jusqu'à la terre promise. C'est Dieu lui-même qui avait ordonné cette fête-là dans Lévitique 23, pour que les descendants n'oublient jamais que Dieu les avait libérés de l'esclavage en Égypte et les avait conduits dans la terre promise. Donc, les frères de Jésus lui conseillent d'y aller. Ils disent, c'est le bon temps, vas-y. Tu vas pouvoir solidifier ton influence auprès de tes disciples, parce que Jésus comptait des disciples là-bas aussi, en Judée, à Jérusalem. Ici, je crois que le texte dit vraiment ce que ça veut dire. Ce sont les frères de Jésus, les frères de sang de Jésus. Les fils de Marie et Joseph. Et le Nouveau Testament confirme à d'autres endroits aussi que Jésus a eu des frères et des sœurs. Donc, c'est faux de dire que Marie est restée vierge toute sa vie. D'appeler Marie la Sainte Vierge, c'est une erreur. La Bible nous dit que, clairement que Jésus a eu des frères et des sœurs. Donc, Jésus était l'aîné. La différence avec ses frères et sœurs, c'est que lui, son père, c'est le Saint-Esprit. On peut dire que c'était ses demi-frères. Mais ses frères ne comprenaient pas ce que faisait Jésus. Pour eux, Jésus cherchait à se faire du capital politique. C'est comme s'il était en campagne électorale pour gagner le plus de disciples en compétition avec les autres maîtres. Il voulait étendre son influence. Sûrement que les frères ont été témoins de certains miracles que Jésus a fait. Ils ont vu qu'il avait un pouvoir. Puis ils lui disent, ben, sers-toi de cela, mais va à Jérusalem. Là. C'est là que tu vas atteindre le plus grand nombre. C'est là qu'il y a une manifestation, une grande foule. Là. Va là, fais ces miracles-là, tu vas gagner des disciples à ton compte. Et pour eux, ce que Jésus faisait en restant caché, c'était mauvais. Ils ne comprenaient pas. Donc pour eux, Jésus était dans l'erreur. Mais ici, l'auteur Jean ajoute qu'ils ne croyaient pas en Jésus. C'était ses frères. Hein. Ils ont grandi avec lui. Jésus a même témoigner que nul n'est prophète dans sa patrie. Ils ne pouvaient pas s'imaginer que leur grand frère pouvait être le Christ. Là. Ils ne croyaient pas en lui. Donc, ils voyaient en lui un homme influent qui voulait être maître, et peut-être qu'il voulait l'encourager, prendre pour lui, mais ils ne comprenaient pas que Jésus était vraiment en train d'accomplir le plan de salut de Dieu. Il était vraiment en train d'accomplir les œuvres de son Père céleste. Ils ne le croyaient pas. Donc, ils l'encourageaient à adopter son propre agenda, selon les valeurs de la population. Si Jésus avait fait ça, il aurait désobéi à son Père. Il aurait péché. Mais ses frères ne comprenaient pas cela. Jésus leur répond que ce n'est pas encore le temps pour lui de monter à Jérusalem. Le moment que Dieu a fixé dans son plan, ce n'était pas encore arrivé. On va voir plus loin qu'il va finalement y aller. C'est pas qu'il l'a menti, mais le temps que Dieu avait déterminé, c'était quelques jours plus tard. Là. Donc, c'était pas prévu qu'il monte avec ses frères. Donc, à la différence de ses frères, Jésus avait réellement une mission à accomplir, un agenda prédéterminé par Dieu. On voit ici un bel exemple. Quand on dit que Jésus est notre modèle à suivre, on a un bel exemple d'un homme qui a foi en Dieu et qui obéit parfaitement, là. Est soumis à la volonté de Dieu, à la volonté de son Père. Il se soumet au plan de Dieu. Donc, ce n'est ni à Jésus, ni à ses frères d'imposer un agenda à Dieu. On se méprend si on pense qu'en ordonnant à Dieu de faire telle ou telle chose dans notre vie, que là, c'est une démonstration de foi. En réclamant de Dieu un désir ou en affirmant ce que l'on veut, que ce serait une démonstration de foi. C'est une démonstration qu'on veut imposer notre agenda à Dieu. Mais Jésus ne fait jamais cela. Il est parfaitement soumis à son Père céleste. Ses frères disent à Jésus, « Vas-y pour que tu te montres au monde. » C'est une belle occasion. Et Jésus leur répond en utilisant ce même mot-là, « monde », mais dans un sens plus profond. Jésus sait que le monde dans lequel on vit est globalement incrédule, rebelle à Dieu. Ce n'est pas ce que ses frères avaient en tête lorsqu'ils disaient de te montrer au monde, ils voulaient dire de te montrer à la foule, mais Jésus, quand il parle du monde, là, il est en train de dire « le monde est incrédule, le monde est rebelle à Dieu ». Et Jésus, par son ministère, son être même, sa personne, il est comme une lumière qui brille dans les ténèbres. Il est la lumière. Mais le monde ne le reçoit pas, le monde n'en veut pas. Et le monde a de la haine contre lui. Une haine qui est comme inexplicable. C'est parce que c'est dans le monde spirituel que cette haine-là surgit. Et ses frères ne peuvent pas non plus comprendre ça. Pourquoi le monde aurait de la haine contre notre grand frère Jésus? Mais le monde a de la haine pour lui, mais ses frères, eux, appartiennent à ce monde. Ils ne sont pas encore croyants. On sait qu'après la résurrection de Jésus, plusieurs vont se convertir, dont Jacques, qui va devenir un des piliers à l'Église de Jérusalem. Mais pour le moment, ses frères ne croient pas en lui, ils appartiennent au monde rebelle. Pour ça, Jésus leur dit, le monde n'a pas de la haine envers vous. On ne peut pas vous haïr, vous faites partie du monde. Mais moi, je suis différent. Et ma mission attire la haine sur moi. Mais ses frères ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre non plus que les Juifs à Jérusalem veulent vraiment le suivre, qu'ils le haïssent à ce point. Mais c'est parce que c'est une haine qui est alimentée par Satan, par les forces démoniaques. Les gens dans le monde ne comprennent pas souvent ce que font les chrétiens. Vous avez sûrement déjà constaté cela. Vous partagez ce que vous faites, les décisions que vous prenez. Les non-croyants à qui vous en parlez vont peut-être penser que c'est insensé. Quand j'étais ingénieur et que j'ai accepté l'appel de devenir pasteur, dans ma famille, parmi mes oncles, mes tantes, des cousins, il y en a qui ne sont pas chrétiens. Ils m'ont fait transmettre le message par mes parents que c'était une erreur ce que je faisais. C'était de la folie. Ils se demandaient si j'étais saint d'esprit. Mais ils ne peuvent pas comprendre les décisions que les chrétiens prennent, les priorités que les chrétiens ont. Pour le monde, ça paraît insensé. On côtoie souvent des responsables de banques alimentaires dans Rosemont. Et ceux qui ne sont pas administrés par des églises, mais la plupart, c'est des organismes séculiers, là. Mais ils ne comprennent pas pourquoi que nous, on évangélise quand on offre la nourriture. Et même, ils perçoivent ça comme étant mauvais. On serait en train de faire du prosélytisme, on voudrait convertir les gens de force ou acheter leur conversion en leur donnant de la nourriture. Souvent, il y a des murmures contre nous même parce qu'on ose présenter l'Évangile en donnant la nourriture. Ils ne comprennent pas que même donner la nourriture, ça fait partie de notre mission, la mission que Dieu a donnée à l'Église. Donc, non seulement le monde ne peut pas comprendre ce que les chrétiens font, mais même ça va attirer le mépris, la haine, les fausses accusations, de la calomnie. On doit s'attendre à ça, c'est normal. Cette incompréhension-là est parfois même parmi nos proches, dans notre famille intime. Si vous êtes converti à un âge plus avancé, là, il y en a peut-être dans votre famille qui vous ont confronté en vous disant « T'es fou, t'es rentré dans une secte, ça ne va pas », puis ils ont tenté de vous dissuader. Ça a peut-être même causé la chicane dans la famille, là, les divisions. C'est pas souhaitable, mais c'est normal que ça arrive. Parce que le monde ne comprend pas que les chrétiens accomplissent une mission que le Seigneur leur a donnée. La mission d'évangéliser, la mission d'être édifié, de se sanctifier, de se réunir en Église, de contribuer au royaume de Dieu. Parce que cette compréhension-là, elle est spirituelle et elle n'est accessible seulement par la foi. Donc, les frères ici de Jésus ne pouvaient pas comprendre les agissements de Jésus parce qu'ils n'avaient pas la foi. La foi est essentielle pour comprendre le plan de Dieu, la volonté de Dieu, la mission de Dieu, les agissements des serviteurs de Dieu. Il y a une deuxième condition aussi, ça va ensemble, mais la compréhension spirituelle vient aussi de l'obéissance à Dieu, d'être réellement un serviteur de Dieu. Donc, lisons les versets 10 à 24. Toujours dans Jean 7, verset 10. Quand ses frères furent montés à la fête, alors il y monta aussi lui-même, non pas de façon manifeste, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et ils disaient, « Où est-il? » Il y avait dans la foule beaucoup de murmures à son sujet. Les uns disaient, « C'est un homme de bien. » Mais d'autres disaient, « Non, au contraire, il égare la foule. » Personne toutefois ne parlait ouvertement de lui par crainte des Juifs, des chefs religieux. On était déjà au milieu de la fête quand Jésus monta au temple et il enseignait. Et les Juifs s'étonnaient, ils disaient, « Comment connaît-il les Écritures? » Lui qui n'a pas étudié. Jésus leur répondit, « Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra si cet enseignement vient de Dieu ou si mes paroles viennent de moi-même. Celui dont les paroles viennent de lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui m'a envoyé est vrai, et il n'y a pas d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous ne pratique la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? » Mais la foule répondit, « Mais tu es un démon, qui cherche à te faire mourir? » Jésus leur répondit, « J'ai fait une œuvre, et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches, et vous circoncisez un homme pendant le sabbat. Si un homme reçoit la circoncision pendant le sabbat afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi parce que j'ai rendu la santé à un homme tout entier pendant le sabbat? Ne jugez donc pas par l'apparence, selon l'apparence, mais jugez selon un juste jugement. » Donc on voit encore ici beaucoup d'incompréhension sur ce que Jésus est en train de faire. Mais Jésus a su à un moment donné, alors que ses frères étaient déjà partis, il a su, guidé par l'Esprit, que c'était le plan de Dieu que maintenant, il se rende à la fête. Il est monté à Jérusalem. Les gens parlaient déjà de lui en cachette. C'était déjà le centre, le sujet là, de discussion. Mais ils avaient peur des chefs religieux. Ils savaient que les chefs religieux voulaient l'arrêter. Jésus, finalement, monte au temple au milieu de la semaine et il se met à enseigner. Donc, il commence. Il arrive, puis tout de suite, il s'expose à la foule qui est au temple. Et les scribes, les pharisiens, sont étonnés par sa connaissance des Écritures. Parce que Jésus n'a pas fait d'études théologiques, là, selon eux. Il n'a pas étudié avec eux, là, avec les pharisiens. Comment il peut être un maître avec un bagage d'enseignement? Parce que normalement, les maîtres développaient par leurs études théologiques un bagage d'enseignement qu'ils donnaient. C'était leur enseignement. L'enseignement de tel maître qui avait développé pendant ses études, en discutant avec d'autres rabbins, il y avait l'enseignement de ce maître-là. Mais comment Jésus pouvait posséder ce bagage-là d'enseignement qu'il donnait sans avoir participé à toute cette étude-là, là, sans faire partie du monde académique, là? Ils étaient étonnés. Et Jésus leur répond que son enseignement n'est pas de lui. Ce n'est pas lui qui l'a forgé, cet enseignement-là. Il est de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Dieu le Père. Donc c'est un enseignement qui est forcément conforme à la parole de Dieu, là. C'est l'enseignement de Dieu même que Jésus donne. Donc, contrairement aux maîtres juifs, il ne cherche pas à se glorifier lui-même. Pourquoi chacun des maîtres développait son bagage là, d'enseignement qu'il allait livrer avec sa signature, là? C'était pour se glorifier. Et il y a une compétition pour voir qui allait être le plus populaire, qui allait attirer le plus d'adeptes. Mais Jésus ne cherchait pas sa gloire, mais la gloire de celui qui l'a envoyé. Donc, il n'était pas du tout animé par l'orgueil. Son enseignement n'était pas corrompu par l'orgueil, par une injustice quelconque. Il est totalement vrai, totalement sans injustice, sans aucune injustice. Mais ça ne pouvait pas rentrer dans la tête des Juifs qui le regardaient. Cette possibilité-là qu'un homme soit parfait, c'était impossible pour eux. Les Juifs ne pouvaient pas comprendre cette vérité spirituelle-là. Et Jésus leur dit que s'ils cherchaient réellement à faire la volonté de Dieu, il comprendrait. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si cet enseignement vient de Dieu. Donc, s'ils avaient vraiment voulu connaître la volonté de Dieu, ils auraient vu que ce que Jésus enseignait était vraiment conforme à la volonté de Dieu, que c'était la vérité. Donc, le fait qu'ils ne croyaient pas, qu'ils supposaient que c'était un enseignement d'un homme, montre qu'ils ne cherchaient pas à connaître la volonté de Dieu, réellement. La preuve de leur hypocrisie que Jésus leur donne, c'est qu'ils ont la loi de Dieu qui a été donnée par un homme, par Moïse, mais ils étaient tous d'accord pour dire que ce que Moïse a transmis, c'est la loi de Dieu. Et pourtant, ils n'y obéissent pas. Ils ne prétendaient pas que c'était l'enseignement de Moïse. Ils reconnaissaient que c'était l'enseignement qui venait de Dieu, mais ils n'obéissaient pas plus. Donc, ils ne cherchaient pas à accomplir la volonté de Dieu. Et Jésus, là, dévoile leur intention qui est mauvaise. Et il demande, « Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? » Et il demande devant la foule. Ça les met sur la sellette. Et il le nie. « Mais qui cherche à te faire mourir? T'es un démon. C'est un démon qui te pousse à parler comme ça. » À ce moment-là, ils ne peuvent plus se saisir de Jésus. Parce qu'à ce moment-là, ils viennent de nier. On veut le faire mourir. Et Jésus dévoile même ce qui a déclenché leur haine contre lui. C'est quand, la fois précédente, où il était venu au temple et il avait guéri un homme paralytique, c'est là que la haine est née contre lui. Pour avoir fait un acte qui est de bonté, une chose bonne, il le juge pour avoir fait du bien. Ils prétendent que c'est parce que Jésus a travaillé, mais en réalité, ça vient les insulter, tasser leur autorité. Comme Jésus le dit, eux-mêmes pratiquent la circoncision, parce que Dieu avait ordonné de circoncire un bébé à l'âge de 8 jours. Mais si ça tombait le jour du sabbat, ils allaient pratiquer la circoncision, qui est une tâche, qui est un travail. Et dans l'Ancien Testament, cette circoncision-là symbolise comme la consécration du futur homme qui est là à Dieu. Donc, il est en train d'être sanctifié. Mais Jésus dit, j'ai purifié un paralytique au complet. C'est encore plus grand, là. Pourquoi vous me condamnez pour avoir fait ça? En fait, ce que Jésus dévoile par cet exemple-là, c'est que les pharisiens ne se souciaient pas de connaître la vérité. Ils se souciaient de l'apparence, de l'image qui est projetée. Ils devaient avoir autorité et Jésus venait les défier dans l'autorité. C'est pour ça que Jésus leur dit, ne jugez pas par l'apparence, selon l'apparence, mais jugez selon un juste jugement. Ça peut arriver qu'il y ait de supposés croyants qui ne comprennent pas nos actions parce qu'ils ne cherchent pas réellement à faire la volonté de Dieu. Ça peut arriver. Ils ne cherchent pas à lui obéir. Ça peut être le cas aussi de vrais croyants, mais qui se sont laissés enfoncer dans le péché d'orgueil ou d'hypocrisie. Et quand on prend des décisions qui peuvent parfois être difficiles, on agit par principe biblique et que ça leur déplaît, ils vont supposer qu'on n'est pas sincère. Ils sont sûrs qu'on a un agenda personnel. Ils ne peuvent pas croire qu'on est vraiment en train d'appliquer un principe biblique avec sincérité. Un hypocrite pense que les autres autour de lui sont hypocrites. Un menteur pense qu'on lui ment. Quelqu'un qui cherche sa gloire personnelle, qui cherche à être reconnu, va penser que quelqu'un qui agit bien et qu'on peut complimenter cherche à se glorifier. Quelqu'un qui est poussé par la haine va penser que les autres sont aussi poussés par la haine. On peut comprendre les choses spirituelles si on a la foi, mais aussi si on cherche à obéir à Dieu. Si on est dans une pente où on s'écarte de la volonté de Dieu, notre compréhension de ce qui se passe, de ce que nos frères et sœurs font, les chrétiens font, diminue. On perd notre acuité visuelle, notre discernement. On ne comprend plus ce qui se passe. Et pour quelqu'un qui est un faux croyant, qui se dit croyant, chrétien, il y en a ici au Québec, selon les statistiques, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais qui chrétiens non pratiquants. Mais ils ne comprennent pas ce que les chrétiens pratiquants font. ça les échappe. Parce qu'ils ne se soucient pas d'obéir à Dieu. Donc, il ne faut pas se surprendre de rencontrer parfois des gens qui se disent croyants, mais qui vont nous faire des reproches sur les décisions qu'on prend, sur nos agissements, qui sont pourtant conformes à Dieu. Et ils vont se baser plutôt sur de la sagesse du monde. Il y a une troisième condition pour comprendre les choses spirituelles, c'est de connaître Dieu. Ça va de pair, c'est sûr, là, ça va ensemble, mais c'est la connaissance de Dieu. Lisons les derniers versets à partir du verset 25. 25 à 30. Quelques habitants de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à faire mourir? » Et le voici qui parle ouvertement et on ne lui dit rien. Est-ce que les chefs auraient vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Alors Jésus s'écria, tandis qu'il enseignait dans le temple, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis? Pourtant, je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je suis là de sa part, et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc à l'arrêter, mais personne ne porta la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Donc, il y a certains dans la foule qui se demandaient pourquoi les chefs religieux n'arrêtaient pas Jésus tout de suite, là? Pourquoi ils le laissent parler comme ça? Est-ce qu'ils sont en train de croire qu'il est le Christ? Mais ils se disaient entre eux, mais ça se peut pas parce que le Christ, quand il va venir, personne ne saura d'où il vient. Comme si le Messie va tomber du ciel. Mais c'était une croyance populaire, mais la Bible n'a jamais dit ça. L'Ancien Testament n'annonce pas la venue du Messie qui tombe du ciel, qu'on ne sait pas d'où il est. Au contraire, on sait qu'il doit naître à Bethléem. Mais eux, ils disaient, ça ne peut pas être le Christ parce qu'on sait d'où il vient, d'un village en Galilée. C'est forcément pas lui. Donc, ils étaient aveugles à l'accomplissement des prophéties qui se déroulaient juste devant leurs yeux. Donc, ils sont convaincus, puis ils concluent que ça ne peut pas être le Christ. Et Jésus, qui sait tout, les a vus peut-être qu'il est en train de discuter sur le bord d'une colonne, là. Il les interpelle. Jésus connaissait leur discussion. Il leur dit, « Vous me connaissez? Pourtant, vous ne savez pas que j'ai été envoyé par une personne véritable, que vous ne connaissez même pas. » Il est en train de parler de Dieu. Dieu a envoyé Jésus, et eux qui sont supposément des adorateurs de Dieu ne le connaissent même pas. Donc Jésus est en train de dire à des Juifs qu'ils ne connaissaient pas Dieu. C'est toute une insulte là, pour eux. Mais c'était la vérité. Connaître Dieu, c'est pas seulement connaître des choses à propos de lui. Il y en a qui ont déjà eu des cours de catéchèse dans leur enfance, ils ont appris des choses, ils ont appris c'est quoi la Trinité. Ils ont appris que Jésus a été tué sur une croix. Donc, ils savent des choses à propos de Dieu. Mais connaître Dieu, c'est connaître sa personne, c'est d'être en relation avec lui. Ça implique d'être en relation avec lui. Ce n'est pas seulement de connaître des choses à propos de Dieu, c'est de connaître Dieu intimement. Et ça implique d'abord d'être réconcilié avec lui. Parce qu'à cause du péché, tous les hommes sont dans le monde. Donc, des ennemis de Dieu, par défaut. S'il n'y a pas de réconciliation, on est ennemi de Dieu et on peut juste apprendre des choses théoriques à propos de Dieu. Mais on ne peut pas connaître Dieu réellement. Mais ici, pour les Juifs, l'insulte était trop grande et les chefs religieux ont cherché à arrêter Jésus sur le champ. Mais le texte dit que personne n'a pu se saisir de lui parce que son heure n'était pas encore venue. Le plan de Dieu que Dieu avait décrété disait qu'à ce moment-là, Jésus ne pouvait pas être arrêté et mis à mort. Ça allait attendre plus tard, à la fête de Pâques. Donc le plan de Dieu, non seulement Jésus l'accomplissait à la lettre, mais Dieu contrôlait tous les événements pour accomplir son plan. Dans les moindres détails. Donc nous pouvons être sûrs que le plan que Dieu a pour nos vies, il l'accomplit aussi dans les moindres détails. Personne ne peut nous faire du mal tant que Dieu ne le permet pas, si ce n'est pas dans son plan de le permettre. Et en plus, on sait heureusement que ça va concourir à notre bien éventuellement. Mais c'est une grande assurance qu'on peut avoir d'être dans les mains de Dieu qui nous protège et qui est souverain. Là, les Juifs se sont aperçus que Jésus était insaisissable, mais ils n'ont toujours pas compris que ça venait de Dieu, parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu réellement. Donc, la compréhension des choses spirituelles, pourquoi c'est inaccessible à beaucoup de gens dans le monde, dans la population? Parce qu'on peut comprendre les choses spirituelles seulement si on a la foi, si on cherche vraiment à obéir à Dieu, faire sa volonté, et si on est en relation avec Dieu. 1 Corinthiens 2 dit, « À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. » Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, ce n'est pas notre propre enseignement, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Et l'homme naturel, qui n'a pas été régénéré, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Répétons les trois points une dernière fois. Pour comprendre les choses spirituelles, comprendre quelle est la volonté de Dieu pour sa vie, avoir un bon discernement, avoir la sagesse, prendre de bonnes décisions selon ce qui plaît à Dieu, ça prend d'abord la foi en Dieu. Est-ce que vous êtes déjà converti au Seigneur Jésus? Bon, la plupart d'entre vous, je sais que oui, mais avez-vous déjà donné votre vie au Seigneur? Est-ce que Jésus est votre sauveur, réellement? Ou si vous n'avez qu'adhéré à une liste de croyances, est-ce qu'il est votre Seigneur, votre sauveur? C'est essentiel pour pouvoir vraiment connaître, comprendre les choses spirituelles. Est-ce que votre foi est ferme? Puisqu'on comprend la volonté de Dieu par la foi, mais est-ce que votre foi est ferme? Est-ce qu'elle a été affermie par les épreuves que vous avez subies? Est-ce qu'elle est affermie par vos activités? Ou est-ce que vous êtes tombé dans le doute, dans l'incrédulité? Avez-vous oublié de consulter Dieu? Avez-vous cessé de remarquer ce que Dieu fait pour vous et de lui être reconnaissant? Avez-vous cessé de le prier, de le consulter? Comment est l'état de votre foi? Et votre compréhension de la volonté de Dieu en dépend. C'est le temps de raffermir votre foi. Le deuxième élément pour comprendre, c'est la soumission à Dieu. Cherchez-vous sincèrement à obéir à Dieu. On peut dire ça va de soi, mais c'est bon de sonder chacun de nous, là, sonder son propre cœur. Est-ce qu'on cherche vraiment, sincèrement à obéir à Dieu? Ou est-ce que vous êtes simplement en train de suivre ce qui est convenable pour l'Église, pour l'Assemblée? Même si elles ne sont pas écrites, il y a comme une liste de choses qu'on considère que c'est convenable, puis si on est un bon chrétien, on agit de telle manière. Est-ce qu'on est en train de suivre une liste de convenances? Est-ce qu'on est en train de devenir légaliste? On cherche l'approbation, on cherche à sauver la face, ou on est sincèrement en train de vouloir obéir à Dieu? Dans des décisions parfois que personne ne va le savoir, là, mais chacun de nous face à Dieu, là, est-ce qu'on veut vraiment obéir à Dieu? Où on se soucie des apparences. Est-ce qu'on juge selon les apparences ou on juge selon un juste jugement? Est-ce que vous passez plus de temps à juger les comportements de vos frères, de vos proches, que de temps à juger vos propres actions, votre propre cœur? Est-ce que vous passez plus de temps à penser qu'il devrait se repentir qu'à passer du temps à vous repentir? Ça fait toute la différence. Est-ce que la paille dans l'œil de votre frère est devenue tellement grosse que vous voyez juste ça et vous avez oublié la poutre que vous avez dans votre œil? Je dis vous, mais je m'inclus dans cette réflexion-là. Si on n'est pas dans une marche sincère, quotidienne, de vouloir faire la volonté de Dieu, on dérape, puis notre discernement des choses spirituelles, notre compréhension de la volonté de Dieu, de qui est Dieu, de ce qu'il aime, s'affaiblit. On devient avec des cataractes. Et le troisième élément, c'est la connaissance de Dieu. Connaissez-vous réellement Dieu intimement? Le connaissez-vous davantage par rapport au jour de votre conversion? Est-ce que vous progressez dans la connaissance de qui est Dieu? Êtes-vous en relation avec lui? Par la prière, c'est essentiel. Est-ce que la prière a été mise de côté dans votre vie ou elle est là? Est-ce que c'est une activité à laquelle vous vous plaisez de passer du temps avec le Seigneur? Est-ce que c'est un réflexe s'il vous arrive quelque chose de bon, de remercier Dieu? Ou il vous arrive une inquiétude de vous tourner vers Dieu pour le consulter, de mettre vos fardeaux à ses pieds? Êtes-vous en relation de communication par la prière avec Dieu? Êtes-vous en train d'oublier les valeurs de Dieu, sa volonté, ses commandements, parce que vous délaissez la lecture de la Bible? Si on met la Bible de côté parce qu'on la connaît, ah, j'ai déjà lu les proverbes, j'ai déjà lu les évangiles. Mais notre acuité pour les choses spirituelles va diminuer, forcément. Un exercice qui demande de la persévérance, mais est-ce que vous persévérez dans cette voie-là? Non seulement de parler à Dieu, mais qu'il vous parle par sa parole, qu'il vous conduise, qu'il se révèle, que vous croissez dans la connaissance de Dieu. Sinon, c'est le temps de se reconsacrer, de retourner au pied de la croix de Christ. Si on reprend les paroles de Jésus qui disait, c'est pas mon temps maintenant de monter à la fête, mais il disait à ses frères, pour vous, c'est toujours le temps opportun. Il pourrait nous dire la même chose, Jésus, aujourd'hui. C'est le temps, là. Aujourd'hui. Et il nous le dit d'ailleurs dans Hébreux 4, Dieu dit, Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui. En disant, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Continue au verset 11 en disant, « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là. » Quand on est dans la volonté de Dieu, là, c'est un véritable repos. Et c'est un avant-goût du repos total, céleste et éternel. « Empressez-vous d'entrer dans ce repos-là afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. » Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Il a été tenté comme nous, à tous égards, sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Amen.